Claude Askolovitch, ce matin, on parle de femmes qui ne veulent pas d'enfants.
Et qui, n'en voulant pas, étant certaines de ne pas, de ne plus, de ne jamais en vouloir, décident de se faire stériliser. Mais elles doivent alors affronter le regard, la désapprobation, le chantage affectif des familles, mais aussi de médecins, en dépit d'une loi qui donne le droit à toute femme majeure de devenir stérile. C'est une enquête dans Society, à la frontière de l'intime et de la politique. Intime, les nuits blanches d'Olivia, qui à 21 ans, cochait des cases sur ses cahiers pour l'enfant, parce que ça ferait plaisir aux parents et aux petits copains. Contre l'enfant, ce monde paravolo, et je n'en ressens ni le besoin ni l'envie. Politique, ce qui est arrivé à Olivia quand elle a pris sa décision et a contacté des gynécologues pour se faire ligaturer les trompes. Elle a essuyé 1, 2, 3, 6 refus. Une gynécologue lui a demandé des lettres de psychologue pour certifier qu'elle n'était pas défaillante. Demande illégale. C'est un sujet intime et politique sur une liberté garantie par la loi, mais que la société restreint. Imaginez, madame, entend une mère de famille qui ne veut plus procréer. Si votre mari meurt, et si vous voulez faire refaire votre vie et un enfant avec un autre homme, un médecin engagé, Martin Vinclair, a dû établir une liste de médecins qui acceptent de stériliser les femmes. Dans Le Monde, un autre intime me saisit dans un très beau texte de la journaliste Catherine Vincent qui, l'été dernier, a accompagné sa maman vers la mort. Elle avait 92 ans et voulait mourir chez elle. Et Catherine Vincent raconte l'isolement et l'incompréhension qu'elle a rencontré quand elle cherchait de l'aide, des soins palliatifs à domicile. Un ami médecin a fini par lui donner de la morphine pour qu'elle soulage sa mère. En avait-il le droit? La débrouille, la lueur dans la nuit. Sa maman partie, la journaliste raconte et l'intime devient politique. Je comprends mieux pourquoi 60% des Français meurent à l'hôpital, faisant de notre pays l'un de ceux en Europe où l'on meurt le moins à la maison. Mais n'était-ce pas ainsi pourtant que l'on mourait autrefois? La médecine a des moyens pour apaiser à domicile les souffrances morales ou physiques. C'est leur mise en œuvre, politiquement voulue, qui fait défaut. L'intime, décidément. Dans Society encore, une autre enquête change notre regard sur la pédophilie, car elle élige non pas un choix, mais un désir que des hommes constatent entre eux, en eux, mais certains d'entre eux, l'ayant constaté, décident qu'ils ne seront jamais des criminels. Aux États-Unis, on les appelle les virtueux pédophiles, les pédophiles vertueux qui s'entraident à maîtriser leurs pulsions. En Suède, un psychiatre, Christopher Hahn, recrute des volontaires pédophiles pour ses recherches. Il veut comprendre, pour les discipliner, les méandres du cerveau des pédophiles. En Allemagne, les pédophiles qui veulent se faire dispose d'un numéro d'appel. La France y vient aussi, mais notre société devra surmonter ses préjugés. J'apprends, par le courrier Picard, que le maire de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise a banni de sa bibliothèque municipale M. Matzneff, qui ne maîtrisait pas ses pulsions, et par le Parisien que ce M. Matzneff bénéficie depuis 26 ans d'un logement social de la ville de Paris, au cœur du quartier latin.
Les mots, Claude, les mots d'un terroriste dans le Parisien.
Les mots et le cynisme et les rires de Salah Abdeslam, le djihadiste survivant des attentats du 13 novembre 2015, arrêté quelques jours plus tard en Belgique, il fut emprisonné à Bruges, où il raconta ses exploits à deux autres djihadistes sans savoir qu'il était enregistré. Abdeslam racontait comment il s'était débarrassé de sa ceinture d'explosifs parce qu'elle lui donnait l'impression d'être obèse. Comment, en se cachant, il était allé au McDonald's prendre un menu filet aux fiches. Les autres riaient. L'un des rieurs était Medine Mouche, l'auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles. Contre ce cynisme, il faut aller d'urgence sur le site du Point et aller avec le plus attentif des respects lire le vrai dialogue entre deux pères qui chacun ont perdu un enfant au Bataclan. Georges Saline, dont la fille Lola fut victime des terroristes, Azdine Aminour, dont le fils Sami faisait partie du commando djihadiste. Georges et Azdine transcendent la frontière du sang dans un livre qui s'appelle « Il nous reste les mots » et se parlent donc sur le site du Point et rien n'est mièvre. Azdine raconte comment il avait lui échappé au racisme à la colère pour construire sa vie et avait vu son fils lui échapper. Comment Samy, à 18 ans, lui avait dit « Papa, je ne suis pas heureux ». Azdine n'avait pas entendu. « Est-ce que tu étais un père absent ?» lui demande Georges. Samy partit en Syrie, Azdine était allé là-bas, mais il était sans force pour le ramener. Ce n'est que par l'amitié de Georges qu'il parvient à parler de son enfant mort et assassin. C'est un texte d'une humanité magnifique. La Croix raconte dans une longue enquête la montée des antisémitismes qui déstabilisent la France et les Juifs. Dans Le Monde, la rabbine Delphine Horviller se souvient que jadis, lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme allait ensemble. Nous avons perdu, dit-elle, le sens des combats communs.
Et on termine, Claude, avec des mémoires.
Celle d'un sage d'abord, qui cherche les clés du présent dans son sens du passé. Régis Debray, dans La Vie, l'hebdomadaire, et dans Libération, s'interroge sur le siècle vert, titre de son nouveau livre, où il constate que la politique ne parle plus de l'homme mais de la nature. On est passé de la Marseillaise à l'ode à la salade, ironise-t-il. On se force à sourire quand l'Australie brûle à la une du Figaro et quand La Croix, justement, compare l'Australie aux canaris dans la mine qui meurent le premier. Debray ne nie rien des drames, mais il voudrait qu'on chante à nouveau l'international. Et puis, j'en finis. Je lis dans La République du Centre qu'Axel Legrand, jeune batelier, a un projet. Organiser un train de bateau de 130 mètres de long qui amènera à Paris vinaigres et vins et moutarde de l'Orléanais via la Loire, le canal de Briard et la Seine, comme jadis au temps splendide du commerce fluvial qui fut emporté par le chemin de fer au XIXe siècle. Je pense à Flaubert dont l'éducation sentimentale commençait sur un bateau fluvial et se terminait par cette phrase. C'est ce que nous avons eu de meilleur.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.